France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Ce qui est très grave, c'est ce que les populations sont en train de vivre. Parce que leurs maisons sont détruites, cimetières, lieux de culte, tout a disparu. Et il n'y a aucune solution qui a été faite. Donc vraiment, c'est un vrai désastre.
On a perdu tout. Et on nous dit qu'il y a des fonds verts, des fonds climatiques. Mais à qui on donne ces fonds? Nous qui subissons ce sort depuis des années, nous n'avons jamais bénéficié de ces fonds.
Nous ne maîtrisons pas la dynamique de la montée des eaux. Les solutions dans le long terme, c'est vraiment de commencer à savoir ce qu'on appelle se déplacer.
Les négociations continuent au Brésil, pays hôte de la 30e conférence des Nations Unies sur le climat. En dépit du contexte géopolitique difficile, le président Lula s'est promis d'infliger une défaite aux négationnistes et il tient à ce que la COP débouche sur du concret, des engagements clairs pour sortir des énergies fossiles et pour renvoyer l'argent promis aux pays pauvres, premières victimes du changement climatique alors même qu'ils sont moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. À l'occasion de cette COP30, le Fonds pour les pertes et dommages entre dans sa phase opérationnelle avec les premiers appels à projets. Ce fonds, qui a mis 30 ans à voir le jour, doit permettre de reconstruire des infrastructures ou de compenser des dommages irréversibles, économiques ou culturels liés au dérèglement climatique dans les pays vulnérables. Le Sénégal pourra-t-il en bénéficier? Le pays compte depuis une dizaine d'années des milliers de déplacés climatiques, des pêcheurs qui ont dû s'éloigner des côtes et de la ville historique de Saint-Louis, de plus en plus menacée par la montée des eaux. Dans un rapport publié cet été, Human Rights Watch dénonce la situation d'un millier de personnes, toujours parqués dans un camp insalubre, dans des conditions, affirme l'ONG, qui violent leurs droits économiques, sociaux et culturels. Ces personnes seront-elles dédommagées pour avoir basculé dans la plus grande précarité? Les côtes du Sénégal dévorées par l'océan, c'est un reportage signé Véronique Reberotte. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Spécialiste environnement de la rédaction de France Culture, vous suivez actuellement la COP30 à Belém, au Brésil. Mais en amont de la conférence internationale de l'ONU, vous êtes allé au Sénégal constater les effets du changement climatique le long des côtes.
Oui, absolument. Un reportage à deux endroits différents au Sénégal, à Barni, tout près de Dakar, on y va en TER, en train régional, et puis aussi à Saint-Louis, au nord, là c'est à 5 heures de voiture. Je suis restée complètement et toujours au bord de l'océan Atlantique, très présent, on va l'entendre dans le reportage, avec l'envie de donner largement la parole à ceux qui vivent le réchauffement climatique, qui subissent l'érosion côtière. Elle est partout, cette érosion au Sénégal, quasiment les 500 km de côte du pays, car les côtes sénégalaises sont partout très sableuses, basses, friables. La montée du niveau de la mer produit alors d'immenses dégâts et bouleverse, vous l'avez dit, à la fois la vie économique des habitants, non économique aussi. Il y a des destructions non économiques, car on parle là de tradition, de destruction de sites religieux et autres, dont la disparition est difficile à vivre pour les habitants, vous allez l'entendre.
Vous êtes donc à Belém, Véronique, et vous avez convié dans le studio Radio France installé à la COP nos deux invités. Bonjour Ibrahim Achekdong.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif du Fonds pour les pertes et dommages, et nous allons beaucoup en parler. Et bonjour Fanny Petitbon.
Bonjour.
Aujourd'hui, responsable France de l'ONG 350.org, vous avez personnellement bataillé pour la création de ce fonds pertes et dommages. Nous allons commencer par écouter ensemble le reportage de Véronique. Il commence dans la ville de Barni, qui est au bord de la mer et très menacée par la montée des eaux.
Fatou Samba nous accueille dans son ancienne maison, rongée par la montée de l'océan. Une partie de l'habitation, encore récemment, était détruite, malgré les pneus et les sacs de sable entassés en contrebas pour tenter de faire barrage aux vagues.
Fatou Samba, on est dans votre maison alors. Ouais, on voit que ça s'est effondré là. Expliquez-nous, il en manque des mots. Avec l'érosion.
Oui, ici, c'est la maison familiale. Il y a deux bâtiments qui ont été emportés par la mer. Il y a un bâtiment qui était là.
Ça
s'est effondré. Ça, c'est cette année-ci que ça s'est effondré.
En 2025.
Oui, au mois d'août. Il n'y a pas longtemps. Il y a même cette chambre-là et l'autre qui est ici aussi qui ont été démolies par la mer. Chaque chambre était habitée par des personnes. Mais maintenant, c'est inhabitable.
C'est dangereux, hein?
Non, c'est dangereux. C'est pourquoi on a enlevé les ardoises qu'on avait, mais le toit, on l'a enlevé.
Et le reste, là, qui est en bord maintenant, un petit peu en bord, de, on ne sait pas.
Non, c'est ma belle-sœur qui habite ici avec ses enfants. Moi, j'habitais dans cette chambre-là, mais maintenant, j'ai quitté pour aller. Donc, c'est un peu trop difficile en tant que communauté. Mais par la grâce de Dieu, on essaie de résister, mais c'est un problème assez difficile. C'est difficile à raconter. Mais pour là-bas, d'ici là, jusqu'à là où sont les enfants, c'était des maisons.
Où sont les enfants dans la...
Les enfants qui sont dans la mer. C'était des maisons.
Mais donc, il y a encore combien de temps?
À moins de 40 ans. Moins de 40 ans, qu'on a perdu presque une cinquantaine de mètres, même plus. Maintenant, c'est la marée basse, mais s'il y a la marée haute, l'eau vient jusqu'ici, là où nous sommes.
Et on a peur quand on est dans ces...
On a peur, mais comme on a l'habitude, un petit ici comme ça, mais ça ne fait pas peur pour dire que, par exemple, je ne vais pas passer la nuit ici. La personne qui vivait dans cette chambre-là, sa chambre est partie. Mais maintenant, il a essayé de réfectionner ici pour pouvoir utiliser les toilettes et la cuisine. Et à part ça, on est toujours menacé par l'avancée de la mer. Et jusqu'à présent, on n'a pas de solution.
Même les maisons qui sont là, vous pouvez plus facilement comprendre que la mer a bien avancé, regardez.
Daouda Larigaye est le président du réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature.
Vous voyez la mer, normalement on a fait des calculs que la mer, plus de 70 ans, elle était à 144 mètres. Donc la mer...
Il y a 70 ans.
Ce qui est très grave, c'est qu'on a fait des simulations avec des calculs au niveau de l'Agence nationale pour l'atmosphère, qui est aux États-Unis, la NOAA, on a fait des simulations. D'ici, par exemple, 2050, la mer va avancer jusqu'à atteindre la route nationale. C'est-à-dire la moitié de Bangui va disparaître. C'est-à-dire tout ça aussi, vous voyez, c'est des maisons qui étaient à plus de 100 mètres ici.
Ils sont les pieds dans l'eau maintenant.
Ils sont les pieds dans l'eau. Cimetières, mosquées, lieux de culte, tout a disparu. Mais ce qui est très grave, c'est ce que les populations sont en train de vivre. Parce que leurs maisons sont détruites et il n'y a aucune solution qui a été faite afin qu'ils puissent vraiment être relogés ou pas. Maintenant, ils vont se concentrer dans les maisons selon la solidarité. Parce que nous, on est au peuple Lebou, on est très solidaires. Les gens n'ont aucune solution pour reloger les personnes. Bon, les aspects sociaux, les aspects sanitaires, et encore les aspects économiques, parce qu'on va avoir des pertes d'économie, parce que les actifs sont... On est en train de perdre le matériel, on est en train de perdre les moyens de travail. Et ça aussi, vraiment, c'est vraiment dangereux, parce que les populations vont aller dans une proximité, 10 à 8 personnes. Proximité, 10 à 8 personnes par dans une chambre. Alors, vous voyez les conséquences du côté sanitaire, du côté comportemental et tout. Donc, vraiment, c'est un vrai désastre. On a calculé d'ici 2050, la moitié de la Bangui, là où vous êtes, va disparaître.
Et vous essayez, on voit la population essaye de faire des digues. Là devant nous, il y a des digues de fortune avec des pneus, ça marche pas.
Voilà, c'est ça le problème. Étant donné qu'il y a des solutions qui ont été préconisées, on a dit qu'il faut mettre des brise-lames et des épis qui permettent de faire reculer la mer de 44 mètres. Mais ça, c'est des projets structurants qui sont très chers. Mais c'est l'État qui doit le faire, ce n'est pas les populations. Mais les populations, à force d'attendre, à force de vivre des catastrophes, et que l'État vienne uniquement leur donner des vivres, de l'huile... Mais la survie, ça n'a aucun sens. Bangui n'a pas d'avenir. Ça veut dire que c'est une ville qui, si on ne fait pas attention, c'est une ville qui va disparaître. C'est ça le danger.
Et on l'entend, le bruit de la mer, on est très présent. Qu'est-ce que vous pêchez comme poisson?
Mon poisson, des sardines.
Sardines?
Oui.
Là, vous êtes rentré de la pêche ce matin? Vous êtes en train de réparer le filet?
Oui, on est en train de réparer le filet là.
Quel problème ça vous pose, la montée de la mer?
Mais maintenant, vous savez, on n'a plus de maison ici. On n'a plus de maison ici. Nos anciennes maisons sont là-bas.
À presque, combien? À plusieurs centaines de mètres?
Ouais. Presque 100 et quelques mètres, 150 mètres. Et ça fait mal parce que vous savez, nos anciens cimetières étaient là-bas. Tous nos pères, nos grands-pères, bon, ils sont là-bas. Nos grands-pères, nos pères, ma mère, tout le monde est ici dans la mer. On n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens pour les déplacer. Tout le monde était là, mais la mer les prend. Bon, si la mer remue un peu, on vient ici, nous voyons les têtes.
Les ossements?
Oui, les os. Une jambe qui flotte, qui partait.
Vous avez déjà vu ça?
Oui, oui, je l'ai vu chaque hivernage. C'est comme ça, on ne peut rien.
Et vous qui avez toujours vécu avec l'eau, la pêche, vous allez être enterré où alors?
En haut.
En haut, oui. Vous avez prévu, loin de la mer?
Loin de la mer. Je ne veux pas que ce qui passe, nos anciens, ne voulons pas vivre la même chose.
Bonjour, je m'appelle Léa Sengeng. Je suis aussi victime de l'avancée de la mer.
Ici, sous nos pieds, là, sous la plage où il y a maintenant l'eau, il y avait un cimetière.
Là où nous sommes,
sous nos pieds.
Sous nos pieds, il y avait des cimetières jusqu'au fond de la mer. Et le quartier Gouille du Lankar qui est au fond avait aussi des cimetières. Sous nos pieds, il y a des tombes. Là où nous sommes, sont les tombes des petits-enfants. Parce qu'on ne mélangeait pas les adultes et les enfants. Jusqu'au fond, il y avait des cimetières. Donc tout est englouti. Ça aussi, ce sont des pertes. C'est douloureux. Parce que chaque fois que je passe, je sais que je passe sur des tombes. Et ça me fait très, très, très mal. On a perdu tout. Tout, on a perdu. Sans rien nous payer de nos pertes et des dommages. Donc, c'est vraiment...
Comment on dédommage ça? On parle d'ancêtres, on parle de vie d'avant, on parle de tradition. Comment on dédommage tout ça?
Il y a des choses qu'on peut dédommager facilement. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dédommager. Les cimetières qui sont sous le sol, comment les dédommager? C'est difficile. Mais le parc de dégâts matériels, on peut les dédommager parce qu'on savait combien de bâtiments étaient dans notre maison. On savait les familles qui appartenaient à ces bâtiments. Il y avait des mosquées. On sait très bien que ces mosquées appartiennent à des communautés. Ceux qui sont encore en vie, ceux qui sont encore dans des situations catastrophiques, on peut les soulager par rapport à nos pertes. On le vit douloureusement parce que nous, pour s'adapter, on ne prend que des pneus, des sacs de sable vides remplis de sable et des débris des maisons tombées. C'est ce que nous avons
des pneus
sont nos propres moyens pour s'adapter. Mais ça ne marche pas, mais des vagues de 2 mètres qui traversent des bâtiments, ce ne sont pas ces pneus qui peuvent l'arrêter. Nous n'avons pas de soutien de l'État. Et on nous dit qu'il y a des fonds verts, des fonds climatiques, des fonds et autres. Mais à qui on donne ces fonds? Nous qui subissons ce sort depuis des années, nous n'avons jamais bénéficié de ces fonds. Ici à Barni, on ne savait pas l'immigration clandestine. Mais dès que ces problèmes sont venus, ils n'ont plus de terres habitables, ni de terres cultivables. Ils sont obligés de partir pour chercher une vie meilleure. Même les femmes et les femmes enceintes qui prennent leurs enfants et qui partent, qui montent dans les pirogues. Donc ce qui se passe vraiment à Barni, vraiment, c'est catastrophique, c'est imaginable. Et nos enfants qui sont partis sont des réfugiés climatiques. Mais c'est dommage. C'est injuste ce qui se passe. Et c'est douloureux. Quand je parle d'immigration clandestine et que je me souviens de mes deux enfants, je me souviens de mes parents qui sont noyés, mais ça me donne le cœur meurtrier.
On retrouve donc Fatou Samba, dont on a visité tout à l'heure la maison qui s'écroule sous les assauts de la mer. Fatou, c'est aussi la présidente des femmes
transformatrice de produits halieutiques à Bargny. Elle nous attend assise à l'ombre d'une pirogue, en cette mi-journée très très chaude. On est à quelques mètres du rivage, d'un côté et de l'autre son usine de transformation de poissons, qui est située juste à côté d'une centrale à charbon. Elle a été construite en 2015, l'année de l'accord de Paris sur le climat, et cette centrale à charbon eh bien, pollue l'air, l'eau, et rend la population de Bargny malade. Fatou Samba, avec d'autres, bien, se sont pourtant mobilisés contre l'installation de cette centrale d'énergie fossile, mais on ne les a pas écoutés. Les autorités ne les ont pas écoutées. Elles continuent à se battre, de militer ici pour lutter contre le changement climatique qui, à Bargny, bouleverse les traditions et bouleverse les vies de ses habitants.
On est étranglés par les projets polluants. Depuis le début, on avait dit qu'on ne voulait pas de ce charbon-là. Mais malgré...
Vous saviez,
parce que quand ils sont venus faire l'étude d'impact environnemental et social, ils ont encore fait les audiences publiques. Mais en conclusion, ils avaient dit que malgré le refus des Bargnois pour l'installation de la centrale à charbon, la centrale va être installée parce que le Sénégal a besoin d'électricité. Donc on savait qu'il y aurait du charbon. Mais avec le charbon, nous savons qu'il y a toujours des impacts sur l'environnement, des impacts sur nous, les femmes, donc des impacts économiques. Il y a aussi des impacts, parce que là où il y a la centrale, il y avait des personnes victimes de l'érosion côtière qui devaient y être relogées. Donc après la centrale, tout a chamboulé. On avait refusé l'installation, on avait refusé.
Quand on vous dit après, on va vous dédommager, vous savez, on va mettre en place des fonds comme des pertes et dommages. Mm-hmm. Pertes et dommages, c'est les pertes irréversibles.
Mm-hmm. Il y a des familles qui se sont disloquées. Parce que moi, par exemple, là où j'habitais, je ne pouvais plus habiter là-bas. Parce qu'il y a mes frères qui n'ont pas de chambre pour dormir. Je les ai laissés ma chambre pour qu'ils s'installent là-bas. Moi, je vais à risque rejoindre mon mari au moins pour laisser la place à mes frères. Donc, la vie, notre vie est disloquée. Parce qu'on vit en communauté. Par exemple, chez moi, il y a mon oncle, il y a ma mère, il y a donc nous aussi au Sénégal, surtout les villages traditionnels, on vit comme ça. On vivait ensemble, on cuisinait tous ensemble. Si moi, par exemple, j'ai de quoi préparer mon repas, et toi, tu n'as pas quelque chose pour préparer ton repas, moi, je vais partager la mienne avec toi. Forcément, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, donc, si on est disloqué, chaque personne, on ne vit plus ensemble, on ne voit pas s'appeler chaque jour pour venir dans la maison familiale, pour prendre le repas. Donc ça, c'est un problème.
Ça, quand on parle du changement climatique et des conséquences, finalement, on ne voit pas beaucoup ces conséquences-là. On les évalue pas, quoi.
On va dire que le changement climatique, par exemple, détruit les maisons, ça fait comme ça. Mais ce que nous vivons à l'intérieur de nous, on ne peut pas le sortir. Parce que des fois, c'est trop difficile. Tu étais avec ta maman, tu ne peux plus vivre avec lui. Tu étais avec tes frères, tu ne peux plus vivre avec lui. Il y a ta fille, par exemple, si tu n'as pas assez de vigilance, elle peut faire tout ce qu'elle veut.
Des bêtises.
Et si c'était entre nous, ça ne se faisait pas. Parce qu'il y a mon oncle, il y a ma mère, il y a mon père, il y a autres. Tous étaient concernés par l'éducation de nos enfants. On vit comme ça. Chaque personne, quand tu es jeune, c'est toute la famille qui va prendre en charge ton éducation. Si tu fais des bêtises, il y a ton oncle qui peut venir. Si tu le vois, tu vas courir parce que tu vas dire qu'il va me frapper ou bien il va me réprimander. Et maintenant, tout ça, on l'a perdu.
L'amour est si fort. Ça nous rend fou.
Dans le nord du pays, à 5 heures de route de Dakar, à l'embouchure du fleuve Sénégal, la ville historique de Saint-Louis, fondée par les colons français, est elle aussi menacée par la montée des eaux. Lentement, mais sûrement, à l'heure du changement climatique, le sable des plages se dérobe sous le pied de ses habitants. Bâti sur une bande de remblais de sable, longue de 2 km sur 300 mètres de large, Saint-Louis est cerné d'un côté par le fleuve Sénégal et de l'autre de moins en moins protégé des assauts de l'océan par un banc de sable appelé la langue de barbarie où vivent des milliers de pêcheurs. En 2015 et 2016, suite à de violentes inondations côtières, la langue de barbarie, à peine 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'est retrouvée en partie grignotée par l'océan. Des centaines de maisons en bord de mer ont été englouties et leurs habitants, surtout des communautés de pêcheurs, ont dû être déplacés en urgence dans des camps, un exil dans des cités dortoirs insalubres, loin de tout.
Donc on va aller sur la langue de barbarie et on va prendre le premier pont de la ville de Saint-Louis.
Mohamed nous sert de guide dans la langue de barbarie.
Ce pont a été mis en place en 1856. On va traverser ce pont-là pour aller voir la langue de barbarie, le fameux quartier des pêcheurs.
Menacé par la montée des eaux.
Menacé par la montée des eaux. Salam alaikum. Cette maison-là va être détruite parce que eux, à 20 mètres d'ici, ils ne veulent plus de maison.
Ouais. Là, la mer est très
ouais,
près.
Ouais, hein. Ouais, pour barrer à toute éventualité.
Sur la plage, des digues ont été construites pour enrayer une inéluctable érosion côtière, en espérant quelque temps encore mettre à l'abri le grand cimetière des pêcheurs quand d'autres sites religieux ont déjà disparu.
La mosquée a été détruite carrément par la montée des eaux. Qu'on va aller voir. Ils ont construit même une petite baraque pour prier maintenant. Ils ont déplacé ici la mosquée. Salam alaikum. À droite, c'est le cimetière des musulmans, qu'on appelle le cimetière des pêcheurs. Donc l'eau avait envahi même le cimetière. Donc on avait fait une mur de protection à droite, mais derrière aussi, on avait augmenté le mur, mettre des, ce qu'on appelle des sacs de riz avec du sable pour protéger. Donc, avec cette digue de protection par là-bas, ça a marché. Et on respire un peu. Mais là, on pensait cotiser tout Saint-Louis pour pouvoir faire cette digue de protection. Parce que c'est nos grands-pères qui sont là. C'est nos papas, c'est nos mamans. Et toute ma famille est enterrée par là aussi. Les gens de la ville, la partie nord et la partie sud, sont enterrés par ici. Ça a travaillé dans ma tête et dans la tête de beaucoup de gens ici quand l'eau a été rentré dans les cimetières ici. Là, c'était tellement difficile pour nous. Donc nous, moi, je venais chaque dimanche voir. Et j'ai mis même des pots pour pouvoir
écoper,
mais je ne pouvais rien. Mais après, on a mis du sable, refaire le mur un peu pour protéger. C'est difficile. Beaucoup de familles saint-louisiennes, c'était très difficile.
C'est pas réglé.
C'est pas réglé du tout. Avec le réchauffement climatique, c'est pas réglé.
Et l'idée de déplacer, c'est pas possible?
Oh, ici, ça sera difficile. Les gens ne vont pas l'accepter. Ça, c'est un cimetière mythique, un cimetière aussi qui dit que les portes du paradis sont ouvertes à travers le fleuve et la mer. Et il y a un verset coranique qui nous parle de ces cimetières qui sont près de la mer et du fleuve. Il y a la porte du paradis dedans. Cet cimetière-là, c'est wow! Impensable de pouvoir déplacer ou faire quelque chose.
On descend là.
La famille de Kadi, jeune femme dynamique âgée aujourd'hui de 32 ans, a été contrainte à l'exil. Premier déplacé climatique de la langue de barbarie. Kadi revient avec nous sur le lieu de l'ancienne maison que possédait sa famille, maison qu'elle a dû quitter il y a 10 ans maintenant.
C'était ici votre maison?
Il y avait 2 maisons. L'autre a été complètement détruite par la
Donc
mer.
Un peu plus proche de la mer?
Oui. Je suis née ici et j'ai vécu ici avec ma mère, mon père, mes soeurs, mes frères. On était au nombre de 11 personnes. On vivait tous ici.
Tout le monde a dû partir en même temps?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Il y a eu une grande inondation, c'est ça?
Oui. Il y avait l'avancée de la mer. Et la mer a détruit presque toutes les maisons qui étaient à côté de la mer. Voilà.
C'était le soir?
La mer détruisait les maisons à partir de la nuit, vers 22h jusqu'à 5h du matin.
Mais au moment où la maison est détruite, vous étiez là? Vous
oui,
dormiez là?
Oui, oui, on était là. Et on dormait ici. Parce qu'on n'avait plus où aller. Vraiment, on dormait ici avec les enfants, ma mère. D'ailleurs, c'était cette année que je faisais la terminale. J'ai dû arrêter les études parce que je ne pouvais plus aller à l'école. On n'avait plus d'économie. parce qu'on achetait des sacs à sable qui nous permettaient de le mettre devant les maisons pour que le reste de la maison ne tombe pas. Mais les vagues étaient trop fortes que les sacs à sable ne pouvaient pas défendre la maison. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs aussi.
Vous revenez souvent ici?
Non, je viens ici rarement. C'est un peu dur, oui. J'étais brillante et j'étais une lycéenne qui avait beaucoup de rêves, qui rêvait un jour de terminer mes études, de soutenir mes parents. Voilà. Et tous mes rêves ont été détruits.
Ont été détruits?
Mon rêve était d'être une avocate, vraiment.
Défendre les autres.
Défendre.
Quand on dit on va vous dédommager, quel prix faudrait donner à ça, des vies aussi bouleversées? C'est dur, non? Ça n'a pas de prix, en fait.
De te déplacer dans un quartier où vous ne connaissez personne. Vous allez recommencer une nouvelle vie. Il faut tout refaire avec votre propre moyen.
Et ça, vous pensez que les gens qui parlent changement climatique, aux Nations Unies, tout ça, ils ont une idée de ce que vous vivez vraiment?
Je ne pense pas, vraiment. Je ne pense pas, parce que jusqu'à présent, on n'avait personne qui est venu nous soutenir, vraiment. Même la commune ne le soutient pas.
Si vous voulez, on va marcher jusqu'à là-bas.
Oui, hein? On peut. Il y a beaucoup de déchets sur la plage.
Oui.
Et on nous a dit... Dans la langue de Barbarie, il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient pris du sable, qui avaient aggravé un petit peu. C'est ça, pour aller mettre le...
Oui. Il y avait des gens, quand ils veulent construire les maisons, ils prennent le sable qui est devant pour construire leur maison. Je pense que la cause de l'avancée de la mer est due à ça.
Ça aggrave en tout cas.
Oui, ça aggrave. Ah. C'est mon frère.
Ah,
il est l'aîné de la maison.
Bonjour.
Enchanté.
Oui, ça va. Vous êtes pêcheur? Comment ça marche la pêche?
Un peu. Parfois tu pars, tu gagnes un peu. Parfois tu pars, tu gagnes rien du tout.
Et vous avez votre propre pirogue ou pas?
Moi actuellement, non, je n'ai pas mon propre pirogue. Je pars avec mon oncle.
Et maintenant vous habitez où?
Actuellement on en a logé là-bas, au côté Bangou.
Harial.
C'est un peu éloigné de la mer?
Oui, c'est très éloigné. Tu prends deux voitures pour venir ici.
D'accord. Là où vous étiez sur votre lieu de travail, maintenant il faut prendre deux voitures.
Voilà.
C'est pas pratique?
C'est pas facile pour venir ici. Je préfère passer la nuit ici.
Kadi et sa famille ont été relogés dans les terres à une quinzaine de kilomètres de l'océan. Autrement dit, au bout du monde, quand la pêche, la mer, reste la source de revenus principale. Les petites maisons en dur, couvertes de toits en tôle du camp de Rariala, accueillent depuis 10 ans des réfugiés de la langue de Barbarie. Femmes et enfants surtout, isolés de tout. L'électricité y a été installée il y a un mois seulement.
La
mairie qui est ici nous a demandé de ne rien faire ici. Même la mosquée, on nous avait interdit de le faire. On est des musulmans, on est obligé de construire une mosquée ou prier. Donc on a décidé de le faire sans leurs autorisations. Ça, c'est l'eau de la pluie et l'eau du fleuve.
Qui se mélange.
Avec l'arrivée des pluies, vous voyez, tout ça va inonder. Il y a beaucoup d'eau ici.
Ah oui, ça recommence quoi.
Vous voyez les ordures, c'est ici qu'on verse les ordures, parce qu'on n'a pas où mettre les ordures. C'est ici aussi qu'on verse les fosses septiques.
C'est vraiment...
Vous voyez ces toilettes, c'est là qu'on...
Les toilettes, ils ont les pieds dans l'eau là?
Oui, parce que c'est délabré maintenant. Personne n'y va dans ces toilettes.
Salam alaikum.
Salam alaikum.
Salam alaikum.
C'est votre fils?
Oui, c'est mon fils.
Il s'appelle?
Abdou Majib Fall.
Salam alaikum.
C'est ma maman.
Bonjour, salam alaikum.
Bonjour,
ça va? Donc Kadi, vous passez par un camp avec des tentes et après on vous amène ici. Et qu'est-ce que vous trouvez ici? C'est à peu près 15 km de l'île de Saint-Louis, de la langue de Barbarie. Vous trouvez quoi ici du coup?
Ah, ce sont des logements sociaux. On l'avait construit pour d'autres personnes, mais pas pour nous. Puisqu'on était dans l'urgence, on nous a amenés ici. Voilà, et ces maisons comportent deux chambres, un salon, une cuisine, une toilette. C'est nous qui avons construit ça pour avoir de l'espace parce qu'on est au nombre de...
agrandi.
Oui, on est au nombre de 12 qui vivent ici.
Il y a votre maman, votre fils.
Oui, mon papa vivait ici aussi. Mon
papa qui est décédé il n'y a pas longtemps.
Oui, oui, il vivait ici. Voilà.
Ça devait être provisoire. Ça dure depuis combien de temps?
On ne nous a rien dit. On nous a seulement donné des papiers provisoirement. C'est juste
pour 10 ans que ça dure.
Oui, mais... ces maisons ne nous appartiennent pas.
Mais c'est du provisoire qui dure.
Oui.
Et après, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous n'avez pas les moyens de vous reloger.
On ne nous a rien dit. On nous a seulement laissé ici le temps. Mais on ne nous a rien dit. On ne nous a pas dit si on va se déplacer ou bien on va rester.
Dans ce camp de Raria, là, il y a combien de personnes qui ont été relogées ici?
Voilà, il y a 68 logements qui sont ici. Et dans chaque ménage, vous voyez des fois deux familles qui vivent ou trois familles qui vivent dans une même maison.
Est-ce que ça change radicalement de l'endroit où vous viviez avant?
Oui.
Pourquoi?
Parce que, comme vous le voyez, les conditions ici sont très difficiles. Voilà, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de poste santé, il n'y a pas de marché, il n'y a rien d'ici. Oui.
Vous, quand vous avez dû abandonner vos études, une fois que vous étiez là, c'était trop loin d'aller ailleurs pour continuer les études?
Oui, c'était très dur. J'avais même des problèmes de transport pour aller à l'école, donc j'ai dû arrêter les études. Je ne pouvais plus continuer.
Et tout le monde est dans ce cas-là, en fait, s'il n'y a pas d'école ici?
Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté l'école, non seulement ici, il n'y a pas d'école en plus. C'est difficile d'entretenir ton enfant pour continuer les études, parce que les conditions ne sont pas favorables.
Quelles sont, du coup, vos ressources ici? Comment vous vivez financièrement? Comment ça se passe?
Ah, on fait avec, il y en a des ONG qui sont venues ici financer les jeunes qui ont quitté l'école en les fournissant des matériels de couture. D'ailleurs, je suis la présidente de ces jeunes. Il y a aussi un autre partenaire qui s'appelle Rosa Luxembourg. Il a financé les dames qui sont ici.
Maman.
De formation en céréales, les produits céréales. D'ailleurs, c'est ma maman qui est la présidente. Elle est aussi la présidente des femmes qui vivent ici. Voilà.
Je peux lui poser une question?
Bien sûr.
Oui. Vous pouvez me dire votre prénom?
Marengue.
Marengue. Comment c'est la vie ici? Comment votre vie a été bouleversée quand il a fallu quitter la maison au bord de l'océan?
Changement, mais am kay mom ñom changement bu metti mo am. Différence
réelle. Il y a une nette différence entre le lieu qu'elle habitait et ici. Parce que avant, elles étaient dans une situation vraiment stable. Par contre ici, c'est toujours des difficultés, ça veut dire donc c'est un rêve brisé. C'est la mère qui a causé tout cela pendant qu'ils sont toujours dans les difficultés. Pourquoi ils parlent de changement? Le lieu où ils étaient, avec le phénomène de la mer, là, c'était des eaux vraiment naturelles. Or, ici, il y a la pollution, il y a le changement climatique, ils sont exposés, donc il y a des eaux stagnantes. Donc, il y a beaucoup de microbes avec lesquels ils sont en train de vivre, surtout avec les enfants et les consorts. Donc, les conditions dans lesquelles ils étaient meilleures que celles.
Tu sais que c'est ce que nous pouvons continuer à faire. Tu sais que c'est ce que nous pouvons faire.
Attends,
on va faire
la prière.
Pour moi, je ne vois pas mon père. Parce que l'environnement est nous là.
Ça va de mal en pire.
L'environnement,
ici, le temps de la chaleur dure plus que le temps de la fraîcheur. Ça veut dire, donc, sincèrement, ils sont en contact permanent également avec les moustiques et les mouches.
Votre vie d'avant, vous avez fait une croix dessus, vous espérez encore aller au bord de l'eau, ou ça, c'est fini pour toujours, c'est perdu?
Non, il faut que je me suis dit.
Ça veut dire que donc, cette vie-là, c'est perdu d'avance. Ça veut dire qu'elle ne peut plus retourner dans ses anciens lieux.
Nous, si nous avons ce que nous avons, ce n'est pas vérité.
Au moins, quitter ces zones, être relogé dans des zones beaucoup plus décentes.
Ce n'est pas un rêve. Ce n'est
donc, ce n'est pas un rêve, mais c'est une demande.
Merci.
Merci à toi.
Allah Akbar. Allah Akbar. Kadi, ce camp s'appelle, rappelez-nous où vous avez été relogé.
Khar Yallah, attendre Dieu. En attendant Dieu. C'est un message.
Donc les autorités vous ont donné un message.
Ah, ils nous ont donné un message. Bon, je pense qu'on n'avait pas bien compris ce message. Attendre Dieu. Il faut attendre longtemps.
Au petit jour, quand ils ne dorment pas sur la plage, les hommes quittent le camp pour retrouver leur pirogue. La pêche, poumon économique de Saint-Louis, perturbée par le changement climatique, mais aussi par l'exploitation d'hydrocarbures.
Moi, c'est Femme Sar. Je suis femme transformatrice de produits halieutiques. Je suis la secrétaire adjointe du CLPA, le Conseil local de la pêche artisanale à Saint-Louis. Mais je suis aussi la présidente d'une union locale qui regroupe toutes les femmes transformatrices, c'est-à-dire les femmes qui s'activent autour du secteur pêche.
Et c'est où l'usine de transformation? Elle se trouve sur la langue de Barbarie?
Oui, au niveau de la langue de Barbarie, on a 4 sites de transformation de produits halieutiques qui ne sont pas tous modernes. Et au niveau de cette langue de Barbarie aussi, on a 1254 femmes qui s'active dans ce métier de transformation de produits halieutiques. On parle maintenant de la réfraction de produits halieutiques, on parle de la dégradation du fond marin avec les changements climatiques, mais on parle aussi de l'exploitation des hydrocarbures offshore. Donc là, c'est
il y a une plateforme qui est juste en face.
Ouais, il y a la plateforme qui est juste en face, bon, qui a quand même causé beaucoup de dégâts aux pêcheurs qui étaient là, surtout avec la réduction des zones de pêche. Parce que là où les multinationales ont posé leur plateforme pour exploiter cette gaz, là c'était un site de pêche qui a été découvert par nos ancêtres, qui avaient l'habitude de trouver des roches de pêche, de poissons, et ils les donnaient des noms. Donc la roche qui a été prise faisait parmi l'une des plus importantes de l'Afrique de l'Ouest, je dirais bien, qui était une zone de reproduction pour les poissons. Donc aujourd'hui, cette roche a été prise et détruite au détriment de l'exploitation du gaz.
Par BP
et Cosmos qui sont là, les multinationales qui sont là pour exploiter, pour s'enrichir au détriment des communautés impactées qui sont là.
Comment elle s'appelle cette roche?
Diatala.
C'était un peu un poumon économique la pêche ici?
La pêche c'est quelque chose quand même que l'État gère, qui n'est pas une compétence décentralisée au niveau des communes, mais qui rapporte beaucoup d'argent dans le secteur de la pêche. Donc si aujourd'hui il y a cette exploitation des hydrocarbures, que l'État gère mieux que ce secteur qui est là, on nous dit que est-ce qu'on ne va pas vers la syndrome hollandaise, c'est-à-dire de dire qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, tout le monde parle de cette exploitation, tout le monde pose des alternatives à ce que ces revenus doivent servir demain, alors qu'il y a la pêche qui est là, et nous savons que cette exploitation d'hydrocarbures a un durée de vie bien déterminée. Parce que cette exploitation va durer 25 ans ou bien 30 ans. Mais nous, la pêche sera quelque chose qui sera toujours là. Voilà.
Pour les autorités sénégalaises, il n'y aura pas d'autre choix pour les populations que de s'éloigner des côtes rongées par l'océan, sans possibilité de retour.
Madeleine Djoussar, je suis la directrice du changement climatique, la transition écologique et du financement vert au ministère de l'Environnement et de la transition écologique au Sénégal. Bon, il y a eu des programmes qui ont été faits avec l'accompagnement de l'AFD, l'Agence française de développement, pour faire de la réhabilitation, du nourrissement des plages, en tout cas pour reprofiler la langue de Barbarie. Donc, du côté de la durabilité, c'est toujours la question, parce que nous ne maîtrisons pas la dynamique de la montée des eaux. Et c'est pour ça qu'il y a les deux à faire. Il y a ce qu'on appelle les techniques, en tout cas basées sur la nature. Il y a l'éducation des populations dans le court et le long terme au regard de l'avancée de la mer. Nous savons que ça ne va pas s'arrêter. Il y a également, parce que je pense que c'est toujours bon, qu'on essaie de plus en plus de nous éloigner de la mer. Donc mettre du boisement, des filaos, des mangroves, ce sont des barrières naturelles, les renforcer. Mais savoir que progressivement, quand même, il faudra que les populations aient une certaine distance par rapport à la mer et qu'ils acceptent en tout cas, même si on fait du nourrissement, d'être loin.
Vous voyez ce que je veux dire, nourrissement ?
Le nourrissement, c'est quand l'État se met à, comme on a fait dans la lac de Barbarie, c'est renflouer la bande de sable. Hein. Donc, ça, ce sont que des solutions temporaires. Hein. Donc, les solutions dans le long terme, c'est vraiment de commencer à savoir ce qu'on appelle se déplacer. Maintenant, des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur bateau, qui ont tout perdu, quelles sont les solutions ? J'avoue, pour l'instant, l'État n'a pas encore de solution. En tout cas, à part les ouvrages qu'on a fait, les relocalisations qu'on fait, c'est trouver des terrains peut-être pour encore reconstruire et leur remettre cela. Donc tout ça aussi, c'est des coûts et c'est assez compliqué.
Justement, le fond, c'est perdu dommage.
Oui, ce fonds, pour l'instant, il est à 750 millions de dollars. Hein, donc,
pour le monde entier.
Pour le monde entier. Ce n'est pas que le Sénégal. Hein, et chaque pays a ses problèmes. D'où cet appel aussi hein, à davantage renflouer ce fonds, à trouver des mécanismes de financement innovants de ce fonds. Il faut des financements. Mettons des mécanismes de financement. On est en train de travailler là-dessus. Mais quand même, accompagnons ceux qui ont moins de capacités. Ne les laissons pas en rate, donc soyons tous ensemble dans ce processus. Et là, je pense qu'on y arrivera. La solidarité mondiale doit se poser, c'est assez clair, on n'a pas le choix.
On parlait tout à l'heure d'une sorte de patrimoine immatériel avec les cimetières. Comment on évalue la perte d'un cimetière aussi ? Quel prix on donne à tout ça ?
Je ne sais pas si on peut parler d'un prix, c'est le cœur. Quand vous voyez quelqu'un en parler, vous ne savez pas, c'est trop fort. Même moi, je ne peux pas donner un prix. Il n'y a pas de prix à ma culture, à mon histoire. Non, c'est compliqué et je pense que c'est très douloureux. Et peut-être même que ça peut créer chez certains d'autres problèmes. Et il faudra qu'on mesure les impacts que ça a sur la santé mentale d'autres personnes.
Le Sénégal peut garder une partie de ses traditions, de son économie avec la pêche, de ses sites au bord de l'eau. Il y aura fatalement des dégâts.
Il y en a déjà, je sais quoi vous répondre. Nous sommes en train de chercher à sauver Gorée avec le projet Waka,
Gorée, oui.
Avec la Banque mondiale. Donc c'est environ 30 millions de dollars pour sauver Gorée. Il y a une communauté là-bas, c'est aussi une richesse historique. C'est un patrimoine de l'UNESCO, tout ça fait qu'on doit préserver Gorée.
Et là, c'est difficile de trouver des financements aussi.
Mais c'est des prêts que l'État du Sénégal est obligé de faire. Alors que peut-être il aurait dû mettre ça dans l'éducation, dans la santé.
Wante ba legi ñu ngi tok di xaar solution mu jafelon ci dunia le réchauffement climatique et ses conséquences sécheresse érosion côtière disparition d'espèces famine pauvreté maladie exode migration.
Climat, c'est le titre de cette chanson du Sénégalais Omar Penn. Les côtes du Sénégal dévorées par l'océan, un reportage de Véronique Reberotte avec Annie Bro à la réalisation. Merci également à Anna et Fatou pour leur aide au Sénégal.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Alors je suis seule en studio à Paris, tout le monde est au Brésil, à Belém, Véronique et nos invités, Fanny Petitbon de l'ONG 350.org et Ibrahima Cheikh-Diong, directeur exécutif du Fonds pour les pertes et dommages. Je précise, Ibrahima Cheikh-Diong, que vous avez la double nationalité américaine et sénégalaise et vous étiez justement cet été au Sénégal. Est-ce que ce reportage fait écho à ce que vous avez vu de vos yeux ?
Mais d'abord, en tant que Sénégalais, j'ai une réaction purement émotionnelle en écoutant les populations désœuvrées, leur culture affectée. Vous pouvez comprendre à quel point ça me touche d'écouter ce reportage et de voir que les populations sont dans des situations extrêmement difficiles. Effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai eu il y a quelques semaines, j'ai été à Dakar, je visitais d'ailleurs précisément Barnier et j'ai discuté avec les populations. Et ça m'a permis effectivement de constater la dimension humaine du changement climatique, des populations qui sont affectées. Donc tout ça me donne deux renseignements, l'urgence et la gravité de la situation pour donc aller très vite. Et puis deuxièmement aussi d'impliquer les populations et le gouvernement dans les solutions donc à apporter. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis à la COP30, le fait qu'on a lancé quand même notre première initiative d'apporter des soutiens aux populations et aux pays africains. Ça montre effectivement qu'on comprend le sens d'urgence, la raison pour laquelle la visite m'a beaucoup touché.
Alors Aurélie, quand on parle de pertes et dommages, ou pertes et préjudices, hein, les deux se disent, qu'est-ce que ça recouvre concrètement quand on doit changer de vie, arrêter ses études par exemple, ça entre ça dans les pertes et dommages?
Alors comme je l'ai constaté dans le reportage, hein, je pense qu'on a compris qu'il y a deux volets, il y a ce qu'on appelle les pertes économiques. À chaque fois qu'il y a des cyclones, il faut reconstruire en Afrique avec tout ce qu'il y a comme défi que les pays ont de priorité. Et c'est effectivement, il faut réhabiliter, il faut reconstruire. Malheureusement, ces investissements coûtent énormément de ressources. Il est clair que le fonds lui-même ne pourrait pas tout couvrir. Et c'est la raison pour laquelle il faut le faire en synergie avec d'autres institutions pour qu'on puisse reconstruire rapidement. Et moi, je l'ai constaté non seulement dans le rôle que j'ai actuellement, mais dans mon rôle intérieur, où j'ai vu effectivement des problèmes de sécheresse, de cyclone en Afrique, énormément de défis. Alors l'autre partie, c'est de connaître les pertes non économiques. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler de ça. Les populations vulnérables qui sont touchées par l'avancée de la mer, qui perdent leur patrimoine historique, sur lequel il faut agir rapidement. Il est clair que c'est difficile de mettre un prix à ces pertes, mais je pense qu'on peut faire. Il faut aller à l'action en attendant qu'on trouve des solutions beaucoup plus soutenables. Mais c'est important d'aller vite pour soutenir les populations.
Comment on fait quand même quelqu'un qui arrête ses études, par exemple, on l'a entendu, qui envisageait d'être avocate et puis qui finalement ne travaille plus, ne travaille pas, ne travaillera peut-être jamais?
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que notre fonds, on met en avant au fait l'État à qui nous apportons un soutien. Je pense que l'État aussi a ses responsabilités vis-à-vis de ces problématiques. Et c'est la raison pour laquelle, si l'État pense que dans le soutien qu'on peut apporter, il y a une dimension éducation, reconstruction à faire, l'État nous approchera avec donc, ses priorités et nous apportera notre soutien. Mais on croit énormément à ce que j'appelle la complémentarité dans les solutions. Il y a une partie de l'État, on a des fonds parmi tant d'autres, il y a d'autres fonds aussi qui apportent leur soutien. Mais l'essentiel, c'est que l'État a les ressources qu'ils font, qui lui permettent de pouvoir prendre des solutions rapidement. Mais je comprends effectivement qu'il y a une dimension humaine extrêmement difficile à résoudre sur l'État. Mais je constate qu'ensemble, nous devons trouver la solution.
Et quand le cimetière d'un village a été englouti, est-ce que c'est un préjudice qu'on peut évaluer et comment?
Alors, j'ai eu à constater cette problématique quand j'étais au Sénégal, à Barni, effectivement, où les populations me disaient, il y a de cela quelques années, c'est là où on enterrait nos morts, maintenant la mer est avancée, etc. Et la réponse courte, c'est oui, ça fait partie, un peu une dimension culturelle de ces pertes. Mais là, tout ça, c'est d'estimer les ressources nécessaires pour apporter le soutien. Mais il est clair que quelles que soient les ressources qu'on peut apporter, la dimension culturelle, humaine et personnelle de l'histoire donc, de ces populations, je me demande est-ce qu'il y a un prix à cela. Il faut tout simplement constater, assurer à ce que l'État aussi fasse partie de la solution pour que l'éducation des enfants ne soit pas affectée parce qu'il y a l'avancée de la mer, pour que aussi, quand on doit déloger les populations, les amener ailleurs, que les conditions comme soient idoines pour ne pas seulement les enlever des terres qu'ils ont connues devant toute leur vie et se retrouver dans des conditions qui ne sont pas adéquates.
Fanny Petitbon, le fonds a mis, on revient aux fondamentaux, au début, a mis plus de 30 ans à voir le jour. Il a été créé donc en 2022. Les réticences venaient vraiment des pays riches parce que l'argent, c'est eux qui vont le verser en majorité, qui vont abonder le fonds. Vous avez peur de quoi, les pays riches? Pas de payer déjà, mais...
Ah bah oui, ils avaient peur d'honorer leurs responsabilités, en fait. C'était terrible parce que, en fait, il faut savoir que ce sujet, quand on parle de 30 ans, c'était même avant que la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques était portée, ce sujet, par les petits États insulaires, les petits États du Pacifique. Vanuatu, les îles Marshall, Salomon, parce que littéralement, pour ces pays-là, c'est un enjeu de survie. Donc, ils demandaient un format d'indemnisation. Ils se sont pris mais des vents, mais année après année. Ils lâchaient pas le morceau, en fait. Et même aujourd'hui, on le voit, parce que là, ils se battent pour qu'on reste sous 1,5 degré de réchauffement climatique. Et les pertes et dommages, pour eux, c'était une réalité. C'était des déplacements forcés de population, des gouvernements qui annonçaient... Enfin, moi, je me rappelle ma première COP. C'était le Premier ministre d'un de ces États qui annonçait qu'il avait commencé à acheter des territoires dans d'autres pays pour anticiper le déplacement de ces populations. Donc c'est vraiment, c'est très concret, quoi. Et puis il y a eu un changement. Il y a eu un changement phénoménal à Glasgow, donc c'était juste après le Covid, où là les pays du Sud ont dit en fait on en a marre de se faire prendre pour des idiots et on demande la mise en place d'un mécanisme financier. Et entre cette COP de Glasgow et la COP de Sharm el-Sheikh, la COP 27, c'est devenu un objet, l'objet politique. C'était ça qui faisait que c'était le succès ou non de cette COP 27. Et on a vu des réticences folles parce que les pays du Nord ne voulaient pas signer le chèque en blanc, hein, ils nous l'avaient bien fait comprendre au moment de l'adoption de l'accord de Paris. Et puis en fait c'est devenu tellement inévitable et bien que ce fonds a été adopté puis opérationnalisé. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun centime qui a été versé à ces pays du Sud.
Alors justement, Ibrahima Chekdong, oui, c'est le moment du premier appel à projet. De combien est-ce que vous disposez aujourd'hui?
Alors moi, je suis naturellement optimiste. J'ai gardé quand même cette trajectoire. Il y a de cela un an, j'ai pris cette responsabilité de diriger ce fonds. Un an plus tard, je suis au Brésil. On a lancé il y a de cela quelques jours, appel à proposition. Ça veut dire qu'il y a une évolution de là d'où on vient et là où on est actuellement.
Ça avance.
Est-ce que ça suffit? Naturellement, ça ne suffit pas. Il y a quand même des besoins sont énormes. Ce sont des milliards. Alors, ce qu'il faut aussi constater, c'est que, et je trouve que c'est quand même encourageant, ce que nous avons reçu jusqu'ici, c'est 800 millions de dollars et c'est des contributions volontaires. Il n'y a même pas de mobilisation des ressources. C'est des populations, ou encore les pays qui reconnaissent l'urgence du fonds et qui s'engagent à apporter leurs ressources. Je pense qu'il y a une préoccupation très très souvent que j'entends de la société civile, c'est que les pays donateurs n'honorent pas leurs engagements. Aujourd'hui, la moitié de ce qui a été engagé a déjà été libéré. C'est déjà encourageant et c'est ce soir d'ailleurs qui nous a permis de pouvoir prendre l'engagement de mettre une initiative de 150 millions de dollars à hauteur de 5 à 20 millions par initiative. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les pays ont exigé que ce soit des subventions. Les pays n'ont pas besoin d'emprunter de l'argent pour régler un problème qu'ils n'ont pas créé.
Ce sont des dons.
Voilà, c'est des dons. Donc il y a une évolution. Maintenant, on va se lancer sur une vraie mobilisation des ressources pour arriver sur les 150, 200 milliards de dollars pour répondre à la demande. Et à ce niveau-là, effectivement, je vois qu'il y a une évolution. Est-ce qu'elle est suffisante? Pas du tout. Mais il faut continuer sur ce lancé.
Alors, Fanny Petit, bon, justement, selon les projections, il faudrait entre 280, autant que je me souvienne, hein, quand on en a parlé il y a deux ans, 290 à 580 milliards de dollars par an.
En gros, il faut à peu près, il faudrait 400 milliards de dollars par an dans le fond. Pour répondre à
la... On est à 800 millions.
On est à 800 millions. On est à moins de 0,2% des fonds qui sont nécessaires.
Donc alors, moi, aujourd'hui, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le voir.
Alors, ouais, mais c'est quand même une réalité. Et en fait, ce que je trouve assez insupportable, c'est que au niveau, enfin, les pays du Nord, de toute façon, ont rechigné depuis des années à honorer leurs engagements financiers, que ce soit pour aider les pays du Sud à faire leur transition, à s'adapter. Et maintenant, donc, il y a dans cette architecture financière mondiale, on rajoute le fonds, donc un fonds dédié pour les pertes et dommages. Et pourtant, les pays, ils annoncent quelques engagements, c'était à la COP 28, mais rien du tout à la hauteur des besoins, en disant il n'y a pas l'argent, les caisses sont vides. Ce qui est, mais aberrant. Il y a des tas de solutions qui sont portées depuis des années, notamment par la société civile, et ça prend aussi auprès des gouvernements. C'est le fait d'aller taxer notamment les secteurs, mais aussi les individus qui émettent le plus. Donc on parle de l'industrie des énergies fossiles, on parle des ultra-riches, on parle d'annuler la dette des pays qui sont touchés par des catastrophes climatiques.
C'est des bonnes pistes, ça?
Mais bien sûr que c'est des bonnes pistes. Et en fait, là, il y a nos collègues de All Change International qui ont sorti un rapport il n'y a pas longtemps, qui ont estimé, si on arrête d'avoir des subventions publiques qui vont aux entreprises fossiles, hein, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, si on commence à taxer les ultra-riches, les industries du pétrole, du gaz et du charbon, on pourrait débloquer 6 600 milliards de dollars par an. 6 600 milliards de dollars, c'est énorme.
Alors, Fanny, on se comprend. Il est clair que 800 millions de dollars, c'est surtout en dessous des besoins. Là n'est pas la question en ce qui me concerne. C'est qu'aujourd'hui, on avait deux choix. C'est de continuer à mobiliser des ressources, arriver sur les 400 milliards dont vous parlez, avant de prendre de l'action. On a décidé que sur l'argent qui a déjà été mobilisé,
de commencer à être pertinent pour les pays. C'est la raison pour laquelle on a lancé ce qu'on a lancé. Et de tirer toutes les leçons en termes d'accès, en termes de procédure, pour que quand on arrivera sur les 400 ou 500 milliards, on aura trouvé la formule de pouvoir décaisser de l'argent pour que ça arrive d'ailleurs en besoin. Donc je pense qu'il y a effectivement cette évolution qu'il faut saluer. Est-ce qu'elle est suffisante? Pas du tout. Je pense qu'il faut continuer à œuvrer avec le secteur, la société civile, avec les États, avec tout le monde, pour qu'ensemble qu'on arrive à trouver des solutions soutenables.
Donc c'est une étape. Aujourd'hui, quels seraient, à votre avis, les premiers potentiels bénéficiaires? Quel serait leur profil? Quels seraient éventuellement les pays prioritaires?
Alors, notre conseil d'administration a décidé qu'en 2026, on fera les premiers décaissements. Ça, c'est du concret. Donc, on n'est pas en train de parler de 2 ou 3 ans. On va se focaliser sur les conditions météorologiques extrêmes, sur l'avancée de la mer dont on parlait. Donc, c'est très précis sur ce quoi on peut financer. Nous espérons à la prochaine interview avec RFI, si vous pouvez vous rendre compte, effectivement, qu'on a effectivement financé quelques pays. Deuxièmement, on a effectivement décidé par le Conseil, en tenant compte la fragilité des pays, donc les États, les îles, pardon, et aussi les pays les moins avancés, que 50% de ce que nous allons apporter sera au minimum apporté à ces deux zones géographiques. Et ça, c'est du concret aussi, parce que c'est effectivement une préoccupation qui a été énoncée plusieurs fois par beaucoup de pays.
Il y a une demande des ONG à ce que des fonds soient versés très vite quand il y a une catastrophe. Là, on le voit aux Philippines, des super typhons, que vraiment vous débloquiez de l'argent extrêmement vite. Ce serait possible, ça?
Alors, le mot clé du fonds, c'est la rapidité. Bon. Parce qu'en perte de dommages, si l'argent arrive trop tard, ça risque pas de sauver des vies. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre procédure, dans l'accréditation, on a tout simplifié pour nous permettre d'aller à l'action immédiatement. Il faudrait que notre énergie soit focalisée, soit apporte des réponses et non sur des procédures bureaucratiques. Et ça, je peux le rassurer, en tant que directeur exécutif, on va y veiller.
Aurélie,
est-ce que vous prévoyez aussi un accompagnement, une expertise pour aider les populations à bien employer cet argent? Je pense par exemple à bien réparer de façon adaptée au changement climatique pour ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé?
Alors, notre modèle d'intervention, il est dirigé par la demande et non par l'offre. Ce n'est pas à nous de donner des leçons à ces pays, c'est aux pays de décider ce qu'ils ont à faire et nous, on apporte le soutien financier. Donc nous encourageons les États, à travers la société civile, avec les populations, à arriver à ce que les demandes qu'on nous envoie elles répondent aux besoins des populations, aux besoins des pays et nous, on apporte la solution financière. Mais on n'est vraiment pas dans une perspective de donner des leçons, dans une perspective d'accompagner. J'espère que les États seront au devant de la scène.
Un tout petit mot, Fanny Petitbon. Parce qu'on a bien compris qu'il manquait encore des financements, mais est-ce qu'il manque à vos yeux autre chose à ce fonds pour les pertes et dommages ou est-ce qu'il répond à vos attentes sur le fonds?
Très franchement, on est encore quand même pas vraiment rassurés sur les processus d'obtention de ces fonds, parce que là, par exemple, l'appel à projet, les États vont pouvoir commencer à déposer à partir de mi-décembre, les décaissements en juin. Quand on a des cyclones comme ce qui vient, ou les deux super typhons qui viennent de toucher les Philippines, où il faut décaisser entre 24 et 48 heures, on n'est pas encore vraiment rassurés que ça va être le cas. Il y a aussi la question de l'accès direct des communautés. Est-ce que des communautés comme on a entendu à Saint-Louis, qui sont touchés par ce type d'événement, vont pouvoir solliciter directement le fonds sans passer par une usine à gaz bureaucratique.
Merci Fanny Petitbon, merci Ibrahima Cheikh Diong, exactement. On en reparlera. Le grand reportage de cette semaine, Les côtes du Sénégal dévorées par l'océan, était signé Véronique Reberotte, réalisation Annie Bro. Un grand merci à Olivia Branger à la technique à Belém et à Marie-Claire Oumabadi à Paris, au web Caroline Beneteau, documentation Patricia Miura et Véronique Le Faller. Pour partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.